deux ou trois choses que je sais bien, la chanson. Aujourd'hui, vitrine du Printival et coup de cœur Charles Cros avec Orage et Pee-wee Le Man. Orage tout d'abord, groupe montpelliérain.
Distance, regret, absence, rejet, suite. Pourquoi toujours amasser les jours, j'hésite. Rayon, caddie, panier, merci, au revoir. Discours ciblé, les dents serrées, je ris. Chercher le jour en vain, j'ai perdu les mots. Les ombres sont à portée, me lisent les mémos. La mer est calme, je la regarde vivre. La mer est calme, je la regarde vivre. Et j'attends tranquillement que les vagues se brisent. Fondu, les larmes obstruent la vue. Si l'on prie encore pour nous, la pomme a déjà le trou. Des mots aux reflets d'acide engraissent nos yeux perfides. Brûlons tous nos atouts, nous ne méritons rien du tout. À chercher le jour en vain, j'ai perdu. Les ombres sont à portée, me lisent les mémos. La mer est calme, je la regarde vivre. La mer est calme, je la regarde. J'attends tranquillement que les vagues se brisent.
Alexandre Englebert pour nous parler d'Orage. Orage, c'est un groupe de combien de personnes, Alexandre ?
Alors dans Orage, nous sommes quatre musiciens. Moi, je suis chanteur-guitariste, à la basse,
À l'origine du projet.
À l'origine du projet, je suis porteur du projet et à l'initiative. Ensuite, mon premier comparse, c'est Thomas Gallego, que j'ai été le premier à venir chercher quand j'ai voulu lancer ce projet et qui a été le premier aussi à me conforter sur le fait de faire un groupe en français. Parce que j'avais des chansons qui dormaient depuis un moment que je n'utilisais pas. Et je me disais, mais il faut qu'on les utilise. Il y a du potentiel. Ensuite, j'ai au clavier mon ami Jérôme Tellen, que je connais depuis un moment, parce qu'on s'est vu plusieurs fois sur les différentes scènes de Montpellier. Et enfin, la personne que j'ai rencontrée, que je suis allé spécialement chercher pour le projet, Jordi Cantagril, à la batterie. Et enfin, un dernier comparse, qui est l'homme de l'ombre, mais un maillon essentiel du projet, qui est Sébastien Rouget, qui est notre ingénieur du son, et qui nous fait aussi les enregistrements, donc qui est aussi un réal.
Des textes en français, ça veut dire qu'il y avait auparavant une histoire qui n'était pas française, qui était en anglais.
C'est ça. J'ai commencé à faire mes armes dans des groupes de rock en anglais, je pense par facilité et par fascination aussi. Et puis on est beaucoup moins nu quand on est en anglais. Mais par contre, depuis que je fais de la musique, j'ai toujours écrit des chansons en français. Mes premières chansons ont toujours été des chansons écrites en français, et c'est quelque chose qui m'anime depuis petit.
Qu'est-ce qui suscite l'écriture? Qu'est-ce qui la provoque à un moment donné?
Ça peut être vraiment beaucoup de choses différentes. Ça va être une actualité, ça va être une émotion forte, ça va être la joie d'un moment partagé, ça va être une rencontre. Je pense que j'ai pas de mécanique prédéfinie d'écriture.
Comment prend la mayonnaise à vous quatre là? L'écriture, c'est vous, la composition aussi, et pour le reste?
Alors, dans un premier temps, c'était quelque chose d'un peu, je vais pas dire spartiate, mais d'un peu unilatéral. J'arrivais avec des guitares-voix, et ensemble, on créait un morceau. Ensemble, on créait Orage, en fait. Et avec le temps, maintenant, ils ont pris leur place et maintenant ils ont la liberté de, pendant une répétition, pendant une résidence, ils vont faire tourner quelque chose, ils vont faire tourner une grille d'accords, ils vont faire tourner une ambiance. Et je vais leur dire, là les gars, on a quelque chose. Et tout de suite, je vais me mettre à écrire. Et on va commencer à buffer le morceau et puis à la fin, ça donnera un morceau complet.
Dans la présentation d'Orage, pour évoquer ces derniers, il est question de... Il est dit, ils sont, par exemple, notre colère. C'est quoi votre colère aujourd'hui?
Mes colères, elles sont multiples et variées, je pense. Je pense qu'en plus, en ce moment, on est quand même sur un terreau qui fertilise les colères. Mais mes colères, elles vont d'abord être visées envers moi-même. Des colères de pas. Parce que je suis quelqu'un qui est très très exigeant avec moi, donc je vais vite m'énerver contre moi-même en pensant que je fais pas assez, que je pourrais en donner plus, que je pourrais toujours être dans l'abnégation de mes émotions. Et ensuite, on va dire que j'ai une colère douce et misanthrope envers les gens parce que je vais vivre des frustrations, je pense, parce que si je retrouve pas des fois égoïstement le même attachement au dépassement chez des gens, ça va pouvoir me frustrer. Voilà. Mais c'est une colère douce parce que j'aime les gens. C'est parce que je vois le potentiel. J'aime voir le potentiel. Et voir un potentiel inexploité, ça me frustre. Du coup, je comprends mieux mes professeurs aussi maintenant.
Ces orages, ils sont aussi, dites-vous, nos peurs. Lesquelles? Alors, même question avec les peurs. C'est quoi les peurs aujourd'hui?
Les peurs aujourd'hui, c'est, on a d'abord nos peurs intérieures, la peur de l'échec. La peur de pas être à la hauteur, la peur de la solitude. Et puis, je pense qu'il y a aussi les peurs qu'on nous inculque. Avoir peur de l'ambition, avoir peur des autres. Et ça, je pense que c'est vraiment des peurs avec lesquelles on ne naît pas forcément, mais qu'on nous inculque facilement. Et auxquelles on peut se laisser couler.
Les peurs, les colères qu'on retrouve dans les chansons que vous écrivez?
Aussi, oui. Oui, parce que dans les chansons que j'écris, je vais pas avoir de limite à exprimer les peurs que j'ai envers moi-même, les peurs que j'ai de mes faiblesses, les peurs que j'ai de mes failles, et puis aussi voilà mes colères primaires. Ensuite, j'essaye autant que faire se peut de nuancer mes propos parce que ma colère primaire, elle est primaire. Et je pense que ce qui fait une bonne chanson, c'est la rendre accessible à tout le monde. Donc ma colère primaire n'est pas la colère primaire de tout le monde. Donc réussir à en faire quelque chose de versatile, qui puisse parler à nos colères. C'est pour ça que dans la bio, je parle que les orages, ce sont nos colères, nos peurs. Et j'essaye de trouver ça, une universalité de mes émotions, pour que les gens puissent se les approprier.
Et ces orages, ils sont aussi votre fougue et votre sensualité.
Oui, bah oui, parce que... Comme je dis, un temps d'orage, c'est magnifique de se retrouver à se câliner au coin du feu, sous un plaid douillet pendant un orage. Donc c'est ça que j'aime dans l'orage, c'est qu'il est multicolore, il a toutes ses facettes en même temps.
La musique variée, cosmopolite, comment vous la qualifiez ?
Je dirais elle est protéiforme et navigante. J'ai une formation de jazz à la base. À la base, je suis autodidacte. Et puis, quand, à la fin de mes études, je me suis dit que je voulais devenir musicien, je suis allé faire une formation de jazz à l'IMFP de Salon de Provence. Et donc, mes premiers amours, c'est le rock'n'roll, qui pouvait même partir sur le métal, ensuite le reggae. Et puis le jazz, qui est venu lier tout ça. Et puis, bien sûr, la chanson française qui m'a jamais quitté. Pour moi, un dimanche en famille, quand j'étais petit, c'était Nougaro le dimanche, c'était Georges Brassens. Et le jazz est arrivé en tant que liant de, je pense, qui a légitimé toutes ces influences. Et du coup, c'est ce que j'essaye de retranscrire dans Orage. Avoir des côtés soul, pop, vraiment chanson française, un peu rock, se laisser aller.
Si on devait donner une date de naissance d'Orage, ça serait laquelle?
Je pense que Orage est né en août 2019, quand je suis allé voir Thomas, avec une frustration en moi, une frustration de voir que ce que je peux, ma carrière, c'est un grand mot à ce moment-là surtout, hein, mais que ma vie n'allait pas dans le sens où je voulais. Et je suis allé le voir en mode, voilà, maintenant j'ai besoin de monter mon projet, d'être maître de mon destin. Et donc je voulais encore monter, par habitude, un projet en langue anglaise, rock'n'roll. Et il me dit, non Alexandre, non, il faut que tu utilises ces chansons en français, il faut que, moi c'est là-bas que je te vois. Et donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment la première graine d'orage.
Quelques mois après la pandémie, la naissance d'un groupe dans ce contexte, comment ça se gère, comment ça se vit?
Oui, c'est vrai qu'on est un groupe 100% Covid, hein, mais ça se gère comme on peut, parce qu'à situation exceptionnelle, réaction émotionnelle exceptionnelle, donc il a fallu gérer la frustration et surtout gérer le doute. Parce que déjà que monter un nouveau projet, c'est beaucoup douter, même si on a de l'expérience, on redevient un amateur. Même si on a écumé des scènes, on a fait beaucoup de résidences, quand on se retrouve avec un nouveau projet, il faut réapprendre à ce projet, il faut se l'approprier. Donc c'est vraiment une gestation. Et donc là, en plus, nous sommes dans une gestation où on savait pas quel était le mois de naissance du bébé. On savait pas si la grossesse se passait bien. Et on n'avait pas de retour. Donc voilà. C'était gérer nos émotions au jour le jour, mais surtout, garder une cohésion. Parce que c'est pas facile. Parce que par exemple, on pouvait pas fêter nos petites réussites. On finissait une résidence, il fallait que tout le monde rentre chez soi parce qu'il y avait le couvre-feu. Donc garder une motivation, c'est, je pense que ça a été ça le plus dur, ne pas céder à la frustration, ne pas céder à la peur et garder notre envie.
Faire appel à un moment donné à un regard extérieur, un management.
Nous on a la chance de travailler avec Dany Lapointe, qui est une personne avec qui j'espérais pouvoir travailler dès le début du projet, parce que je l'ai rencontré à travers le projet d'Imone et Kirst. Kirst, ce sont des amis à moi, dont Thomas, le bassiste, fait partie. Et j'ai rencontré Dany par là, et dans mon désir de pouvoir essayer de faire tout mon possible pour mener un projet au plus haut de mes espérances, je savais que Dany était la personne que dans mon entourage qui avait toutes les cartes en main pour m'aider dans mes réalisations. Et donc ça a commencé par elle, et puis ensuite faire des résidences. On a fait des résidences à Victoire 2, à Paloma. Là, on était en résidence au théâtre avant aujourd'hui, la semaine dernière, où il y a Christian Bordarier qui est venu donner son avis sur le projet, où il y a Dimonet qui est passé aussi nous donner des conseils. Donc ça a été très précieux. Ça a été très précieux. Parce que, comme vous disiez plus tôt, dans un moment de confinement, c'est difficile d'avoir accès à du savoir. Donc on a eu beaucoup de chance quand même sur ce côté-là.
Et avec la scène cet après-midi, même si elle est réservée à des professionnels, ou surtout si elle est réservée à des professionnels, c'est d'autant plus peut-être un public exigeant et pas facile. C'est quoi l'enjeu pour vous là ?
L'enjeu pour nous, le premier, c'est de faire la prestation à la hauteur de nos espérances. Avant de penser à toute retombée, c'est d'abord être voilà, on a travaillé dur. Moi, je suis fier de du pour l'instant du chemin parcouru. C'est de voilà, c'est de le montrer avec toute la fierté qu'on peut avoir. Voilà, aujourd'hui Orage, on en est là. Et c'est surtout prendre du plaisir. Là, on va quand même vivre un petit instant suspendu, une bribe d'un autre temps. Donc vraiment, ouais, je pense que là, on va déconnecter la tête, et puis on va ouvrir le cœur, et j'espère que ça, qu'on sera tous dans cette ambiance-là.
Les autres échéances, c'est la sortie d'un clip.
C'est ça. Donc les autres échéances, normalement, donc nous avons le 21 mai, la sortie de notre premier morceau, Éloigne-toi, accompagné de son clip qui a été réalisé par mon petit frère Pierre Englebert, que j'ai fait venir exprès du Canada pour tourner le clip. C'était vraiment une super expérience. Et ensuite, nous avons le premier EP de Orage qui sera éponyme, qui devrait sortir le 11 juin.
À propos de ce clip, je vous propose que l'on se sépare en l'écoutant, mais après en avoir parlé, qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette chanson « Éloigne-toi » ?
Éloigne-toi, pour moi, c'est la chanson d'une prise de conscience, d'un début de guérison. C'est la personne qui prend conscience qu'elle est en souffrance. Et la première étape pour pouvoir guérir de ses souffrances, c'est accepter de l'être. Et donc, par ce éloigne-toi, c'est pour l'instant, je ne suis pas à même de gérer mes turpitudes. Donc, s'il te plaît, laisse-moi l'espace pour pouvoir revenir vers toi.
Il y a de l'autobiographique quand on écrit les chansons ?
Il y en a toujours un peu, je pense. Mais je pense que c'est important de partir de soi, mais pour aller vers les autres.
Et la musique, celle-là, elle est venue comment ?
Elle, ça fait partie de ces premiers morceaux composés seuls à la guitare que j'ai amené et qui a pris tout son sens et son corps à travers le groupe.
Et pourquoi avoir choisi celle-là pour être mise en avant, avoir le droit à un clip ?
Parce que, comme on disait plus tôt, c'est la première. C'est Orage est né dans ce titre, le son Orage. Il est là, il est dedans. C'est la première pierre à l'édifice d'Orage. Il est là. C'est le premier témoignage de notre naissance.
Alors, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Tu n'as rien de bon à trouver. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Tu n'as rien de bon à trouver. Non, ce n'est pas le jour, loin même d'être l'heure. Là, je suis trouble et mon cœur est vidé. Un animal en quête d'amour croise mon terrier pour l'hiver hiberner. Alors, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, tu n'as rien de bon à trouver. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, tu n'as rien de bon à trouver. Courneret, pas la mer, songe-t-on de poison. toi, de moi. Éloigne-toi de moi, tu n'as rien de bon à trouver. Éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi, tu n'as rien de bon à trouver.
Orage, donc, un des artistes des vitrines du Printival. Chaque année, un coup de cœur est attribué à un artiste belge, un Suisse et un Québécois également. Puis oui, Le Man est celui-là pour 2021 avec son album Exposant 4. Et c'est de solitude qu'il a choisi de nous parler.
Pourquoi la solitude? D'abord, j'ai envie de parler de la solitude parce que c'est un morceau sur lequel j'utilise Jacqueline. Jacqueline, c'est une cigar box que j'ai avec moi sur les routes depuis longtemps. Et puis j'aime bien travailler sur des instruments un peu hybrides. Donc ici, c'est une boîte à cigares dans laquelle on a enfoncé un manche à balai, sur laquelle on a mis une vieille corde de basse et un boulon. Voilà. Et donc ça fait un instrument particulier que j'aime beaucoup utiliser, puisque c'est une petite histoire d'amour entre Jacqueline et moi. Et puis ça représente un peu bien l'idée de ce que j'aime faire en spectacle, parce que j'utilise beaucoup d'instruments recomposés comme ça. J'ai une pelle qui est transformée en guitare aussi. Je vais avoir un bidon lélé bientôt aussi. C'est un ukulélé, mais dans un bidon d'huile. Et voilà. Alors la solitude, c'est aussi un peu un coup de cœur dans mon travail, parce que c'est une grande partie de moi. J'aime beaucoup être seul. Et sur mon album précédent, j'ai fait plus de 100 dates sur la tournée en solo. Et la solitude, je l'écris sur les routes entre la Bretagne et la Belgique, dans ma voiture, tout seul. Et voilà, ça représente un peu bien le paradoxe. D'une part, j'adore être seul, et puis d'autre part, j'aime bien aussi voir du monde, quoi, puisque on a besoin du public quand on travaille. On a besoin de rencontrer des gens. J'aime vraiment ça. Je fais ce métier-là pour le partage, mais en même temps, j'aime vraiment être seul. Et donc c'est un peu le paradoxe entre la beauté de la solitude et toute sa tristesse.
Vous évoquiez l'album précédent. Il est plus apaisé, il est plus tranquille, celui-là?
Cet album-ci, est moins agressif dans l'écriture, au niveau des textes. Donc le premier album était un peu plus... J'aime quand même... J'ai tendance à l'écriture. Pour moi, quand on chante aujourd'hui, on chante pour dire des choses, pour mettre le doigt sur des choses, pour faire réagir, pour inviter les gens à se positionner ou à réfléchir. Et le premier album était un peu plus agressif à ce niveau-là, quoi, un peu plus révolutionnaire. Et donc l'écriture ici, c'est un peu adouci, et donc il y a même une forme d'invitation de retour à la terre, de revenir à l'essentiel, justement, le partage, la rencontre avec les gens.
Qu'est-ce qui a mené à cette évolution?
On vieillit, je sais pas, on avance, on rencontre. Après, je fais beaucoup de chamanisme. Je suis souvent autour du feu, je fais beaucoup de huttes de sudation, et je pense qu'au fur et à mesure, j'ai nettoyé beaucoup de choses aussi de mon parcours de punk ou de rocker, de choses. On se rend compte que on a des principes avec nous, des principes qui vieillissent avec nous, puis parfois des principes qui nous ont même fait avancer. Et puis on se rend compte qu'à partir d'un moment, ces principes, on peut les laisser tomber, on peut avancer et aller vers autre chose. Puis le monde avance, le monde change, et donc je pense qu'on doit aussi évoluer.
Dans un cendrier froid, comme la brume à travers bois, comme un lever de soleil sur la route, comme un animal écrasé qui se tord, comme des pantoufles au pied de l'escalier, comme un chapeau vide sans son sou.
cœur des cités comme un chien usé au panier, comme un ami envolé, comme une tombe sans fleurs, comme un nuage en été.
Après La Solitude, un titre plus énigmatique choisi par Pee-wee Leman à ML1705.
Ça, c'est un morceau que j'ai écrit en Bretagne. Tu vas me dire, je parle beaucoup de la Bretagne, mais c'est vraiment un... J'ai même pas envie de dire un coin du pays. C'est, pour moi, la Bretagne, c'est un pays. Il y a un truc qui se passe entre la Suisse, la Bretagne, la Belgique et le Québec. Ce sont des endroits où je vais souvent jouer, et pour moi, ce sont des endroits où on retrouve le même genre de personnes.
Et vous êtes belge,
sûr. Moi, je suis belge, oui. Ouais. Et parfois, je finis par me le demander. On me demande souvent si je suis québécois, parce que je reviens souvent de là, et puis ça doit être la barbe ou quelque chose comme ça. Et donc, ça, c'est un morceau que j'ai écrit sur un haut plateau face à la mer. Comme Calogero, j'allais partir en vrille. Et c'est un morceau que j'ai dédié à ma fille, en fait, qui a été conçue là-bas le 17 mai. Elle est née le 17 mai, mais elle a été conçue un peu plus tôt, 9 mois normalement plus tôt. Et donc, ça, c'est vraiment l'appel à la terre et à la nature, quoi. C'est vraiment un chant pour moi de retour aux sources, de réécouter la sagesse animale, de ce qui nous passe au-dessus et de ce que la nature nous raconte.
Un mot sur le titre de l'album.
Verbum pollicat, c'est du latin, et donc ça veut dire parole de putois. Et donc, alors le putois, toujours on rigole parce que c'est un animal qui repousse, c'est un animal qui intrigue, mais dans toute cette sagesse animale dont je te parle, le putois en fait est considéré chez les Amérindiens comme un animal qui a son muscle en fait, c'est une force de diffusion. Et donc, c'est un animal qui me parle beaucoup, parce que quand on est sur un plateau, sur une scène, en tant que chanteur ou acteur, on a une force de diffusion, et on a un espèce de pouvoir et un aura, Et le tout est de savoir maintenant comment l'utiliser à bon escient. Pour, c'est pareil pour un homme politique, en fait. Hein, il a un aura, et qu'est-ce qu'il en fait pour aider les gens à avancer ou pour les envoyer dans le mur. Et donc, les paroles de putois, parce que le putois, c'est un peu moi. Et puis j'ai la crête et tout ça, tu vois. Donc, c'est paroles de moi. Mais ça marchait moins bien.
Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, qu'est-ce que ça représente pour un Belge, entre autres?
Je ne sais pas si pour un Belge ou un Suisse, je crois, c'est, ou même un Français, je pense que c'est, pour moi, c'est, ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je fais la scène et la route, et j'ai jamais voulu changer ma direction de travail pour plaire plus à un label ou pour essayer d'avoir plus de public ou je sais pas quoi. J'ai ma méthode de travail, j'avance. Et là, recevoir ça ici pour cet album où mon style d'écriture a évolué, où je sens que j'évolue un peu, et avoir maintenant ce prix, c'est vraiment d'une grande valeur parce que ça montre que mon travail est respecté et apprécié. Et là où je suis content, c'est de ne pas avoir lâché prise sur mon travail. Et donc je suis très content. Après, je ne réalise pas non plus encore ce que ça peut apporter de plus. Mais pour moi, c'est mon premier diplôme véridique. Enfin, c'est pour peu que c'est un papier, tu vois, parce que moi, à l'école, j'ai à chaque fois tout envoyé chier. Et donc, on va dire, c'est mon premier vrai diplôme. Mais c'est même par rapport à mes parents. On rigolait avec Jean-Marc, il paraît qu'Igelin avait fait une remarque comme ça à ses parents aussi, il y a longtemps. Et voilà, c'est par rapport aussi au fait que j'ai pas souvent été aidé non plus. On m'a dit, mais pourquoi tu fais ce métier? Ça n'apporte rien et tout ça. Et donc, espèce de saltimbanque, va plutôt travailler je sais pas où. Et donc voilà, c'est ça, c'est un cadeau, un beau cadeau.
Se laisser fondre sur les pierres. Cueillir les myrtilles, les murs. Sentir sur aux prunelliers. Frôler les fleurs de trèfle d'argousier. Petit bout de moi.
des dents, souffle des chants.
Bella Ciao, c'est toutes les semaines, même heure, même fréquence, et sur internet, toujours bellaciao.blogspot.fr. René Pagès, Yves Regour, à la semaine prochaine, peut-être.